L'actualité culturelle et artistique de votre région avec Mag Culturel sur Radio Alpes-Mancelles.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine culturel sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler du voyage lumineux et sonore à l'abbaye royale de Lépau. Donc dans un premier temps, pour nous en parler, nous recevons Caroline Menérol, responsable communication à Sarthe Culture. Alors, Madame Menérol, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour la 7e année, le Conseil départemental de la Sarthe propose aux Sartoises et aux Sartois un voyage lumineux et sonore à l'abbaye royale de Lépau. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette abbaye royale de Lépau ?
Alors c'est une abbaye qui appartient au département depuis 1959 et qui a été restaurée depuis près de 60 ans. Les campagnes de restauration continuent. C'est aussi le siège de l'Assemblée départementale et l'abbaye en fait a été fondée par la veuve de Richard Cœur de Lion dans les années à peu près 1200-1229. Bérangère en fait, la fondatrice ne verra jamais l'édifice puisqu'elle décédera quelques mois plus tard. Et on retrouve en fait son gisant, qui est le joyau en fait de cette abbaye, dans le cœur de l'église abbatiale.
Et justement, pourquoi avoir choisi ce lieu pour proposer ces illuminations féeriques ?
Ben en fait, c'est une volonté d'amener aussi un joyau du patrimoine qui est plusieurs fois centenaire dans la modernité. C'est vraiment faire le grand écart entre à la fois une architecture assez sobre, hein, les cisterciens c'est très sobre, et puis de l'emmener en fait vers la modernité, vers les arts numériques. Et c'est cette volonté aussi qui fait qu'on met également en son ce parcours lumineux qui est exclusivement à faire en extérieur.
Et justement, il s'adresse à qui ce voyage lumineux ?
Alors, il s'adresse, j'ai envie de dire, à tous les plus petits comme aux plus âgés. C'est vraiment une déambulation féerique dans le parc de l'abbaye. Le parc de l'abbaye fait plus de 13 hectares et vous avez à la fois des illuminations contemporaines ou des illuminations plutôt classiques avec l'esprit de Noël. Pour le coup, en fait, on s'aperçoit que les deux, à la fois les contemporains et le classique, plaît aux petits comme aux plus grands.
Et c'est d'ailleurs un parcours féerique responsable et durable.
Oui, parce que depuis des années, en fait, l'ensemble des guirlandes lumineuses est constitué de LED, donc c'est très peu énergivore. On réutilise énormément, en fait, les anciennes installations des années précédentes. On essaie de recycler. On programme, on utilise aussi beaucoup tout ce qui est programmation pour vraiment limiter les illuminations, enfin, la mise en lumière du site en dehors vraiment du parcours ouvert au public. Donc, on est très, très respectueux et très soucieux, et ce, depuis de nombreuses années.
Et quel est justement le parcours cette année ?
Alors, le parcours cette année, il y a vraiment un gros clin d'œil sur le cloître lumineux. On a voulu faire un hommage à l'univers fantasmagorique de Tim Burton, donc de son célèbre film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça, c'est un des points importants du parcours cette année. Et le second point, c'est aussi du mapping que l'on va retrouver à l'arrière du dortoir des moines dans la prairie. Et c'est la première fois, en fait, on va vraiment réutiliser l'ensemble du bâtiment pour le souligner. Et il y a même des petits clin d'œil avec Pac-Man et le Père Noël, je n'en dis pas plus.
Et quelles sont les nouveautés de cette année ?
Alors, je viens donc vous les dire, il y a également aussi une petite forêt lumineuse dans une des prairies. On a aussi des compositions contemporaines, mais je crois que vous allez plutôt en parler avec Olivier, qui est en fait à l'instigation de ce parcours et qui sera peut-être le mieux à même de vous en parler.
Oui, en effet, hein, Monsieur Claus est à l'origine de la scénographie de cette mise en place de ce voyage.
Oui, Olivier, donc un artiste local, a pensé le parcours avec toujours des petits clins d'œil, c'est ce que je vous dis, entre soi, vraiment quelque chose de très contemporain, comme les circles totems, et puis des choses un peu fantasmagoriques, comme le petit village du cloître magique, et encore, vous avez le mapping qui plaît énormément cette année.
Et il est possible de faire une pause gourmande et une pause cadeau.
Alors, il est même conseillé de venir se restaurer. On a la chance d'avoir une équipe au sein de l'abbaye qui s'occupe du Café des Moines. Et durant les illuminations, nous avons cette équipe qui déporte en fait le Café des Moines dans un chapiteau qui s'appelle le chapitre et qui se situe en fin de parcours. Et vous pouvez venir vous restaurer avec des petits biscuits de Noël, une soupe réalisée à partir des légumes de l'abbaye ou encore du vin chaud ou du chocolat chaud. Et vous avez également donc la boutique de l'abbaye de Lépaux qui, je répète, est ouverte gratuitement en fait, hein, la boutique de l'abbaye tous les jours. Et pour le coup, pendant les illuminations de Noël, on déporte aussi une partie de la boutique sous ce chapiteau éphémère pour en fait allier évidemment les petites courses de dernière minute.
Et concrètement, pourquoi venir faire ce voyage lumineux et sonore ?
On le voit, hein. Les personnes sont vraiment attachées à cet événement qui, depuis de nombreuses années, prend de plus en plus d'importance. L'année dernière, on a atteint les 42 000 visiteurs sur à peu près un mois et demi d'ouverture. Donc on voit que les Sartois et Sartoises ont envie de se promener, de partager un moment en famille. On le voit, en fait, les personnes viennent vraiment accompagner soit en famille, soit entre amis pour une petite balade qui, je le rappelle, est entièrement gratuite, la Ville Royale de Lépaux.
Et on a jusqu'au 15 janvier 2023 hein, pour profiter bien sûr de ce voyage lumineux et sonore. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être les horaires ?
Alors, les horaires, donc, durant toutes les vacances scolaires, le site est ouvert 7 jours sur 7, à l'exception du 25 et du 31 décembre et du 1er janvier. Donc, c'est de 17h30 jusqu'à 20h30 tous les jours, dernières entrées à 20h. Vous avez toutes les informations sur le site internet de l'abbaye de l'Épau, epau.sarthe.fr.
Et sinon, y aura-t-il des projets suite à ce voyage lumineux et sonore à l'abbaye royale de l'Épau ?
Alors, je pense qu'au moment où on est dans l'événement 2022, on essaye un petit peu de savourer l'instant pour, avant de se projeter et de commencer à travailler sur le voyage lumineux et sonore de 2023.
Un mot à rajouter ?
J'invite vraiment les Sartois, Sartoises et même les personnes en dehors du département à venir profiter de ces installations féeriques dans un remarquable site cistercien qui se situe juste aux portes du Mans.
Alors Madame Menérolle, je vous remercie et je vous souhaite une belle édition de ce voyage lumineux sonore à l'abbaye royale de l'Épau. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.
On continue ce magazine sur le voyage lumineux et sonore à l'abbaye royale de Lépau. Pour cela, nous recevons Olivier Clouse, scénographe et artiste éclairagiste sartois, à l'origine de la mise en lumière de l'abbaye royale de Lépau. Alors Olivier Clouse, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, présentez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous en tant qu'artiste éclairagiste ?
Eh bien, ça fait quasiment 30 ans que je travaille autour de la lumière, en fait. Au tout début, c'était dans le cinéma, sur le plateau de tournage, où j'étais électricien, comme on dit. Et j'assistais des directeurs de la photographie à mettre en place les différents états lumineux nécessaires aux scènes de tournage. Et après, j'ai bifurqué un peu sur le bas, beaucoup, sur le spectacle vivant, où j'ai éclairé des spectacles de danse, de théâtre et de musique, et aussi des spectacles de rue pendant pas mal d'années. Et ça a toujours été la lumière, mon fil conducteur, en fait. Pour aujourd'hui, finir, c'est une étape encore, vers des parcours lumineux à travers des bâtiments, des patrimoniaux, des parcs, etc. Et c'est encore une autre facette de la lumière, une autre vision de la lumière.
Et comment vous vous êtes formé justement en tant qu'artiste éclairagiste ?
Alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas d'école de lumière. Maintenant, il y en a, d'éclairagiste. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas. C'était les rencontres qui ont forgé mon œil, ma technique et ma sensibilité. C'est les différentes rencontres faites au cours de ces 30 ans d'expérience avec différents créateurs, différents artistes, différentes personnes qui ont nourri mes connaissances et mes convictions de personne, d'homme.
Alors, depuis 4 ans, vous mettez en lumière l'abbaye royale de Lépau. Donc, comment éclaire-t-on un lieu comme l'abbaye royale de Lépau ?
Alors, je n'éclaire pas l'abbaye royale de Lépau. J'éclaire les bâtiments, j'éclaire des parcs. Il y a aussi un très beau parc à mettre en valeur et à souligner. Donc, on dit abbaye royale de Lépau, on pense forcément à des pierres et à un bâtiment. Il n'y a pas que le minéral, il y a aussi du végétal à mettre en valeur. Enfin, c'est à la fois une lecture du bâtiment dans son ensemble, par rapport à son architecture, qu'il faut mettre en relief par endroit, et aussi son lien avec son environnement proche, en fait, qui sont les allées et les arbres présents autour de ce bâtiment. Donc c'est un travail global entre une lecture horizontale ou verticale, en fait, et il faut jouer par moments entre plonger le regard du spectateur sur une lecture en profondeur, pour mettre en relief la grandeur du parc ou la grandeur des arbres qui sont lointains, et à la fois, après, avoir un regard vertical par rapport à ce bâtiment qui est tout à son honneur très beau et avec une très belle verrière sur l'église abbatiale. Il y a tout ça à mettre en écho, en fait, pour que le spectateur puisse voyager à travers ces mises en lumière.
Et pourquoi avoir accepté justement cette mise en lumière ?
Pourquoi j'ai accepté de mettre en lumière la vie de l'écho ? C'est un challenge au début, sincèrement. Je ne l'avais pas encore fait, mais ça me titillait fortement de questionner mes pratiques, mes connaissances par rapport à ce travail qui était nouveau il y a 4 ans. Et ça m'intéressait fortement, en fait, de remettre à plat mes connaissances et de les tester dans cet environnement tout nouveau pour moi, en fait. Donc c'était à la base un challenge et à la fois un intérêt intellectuel fort par rapport à cette histoire de ce bâtiment et de ce lieu, en fait, qui est cette année mise en valeur à faire aussi l'exposition de la Reine Bérangère, où on retrace un peu l'historique de la fondation de l'abbaye royale de Lépau, qui est fort intéressant. Donc voilà, il y avait plusieurs niveaux de lecture, en tout cas pour moi, pour intervenir à l'abbaye de Lépau.
Et sinon, présentez-nous la scénographie que vous avez mis en place cette année.
Alors, pour la scénographie de l'exposition autour de la Reine Bérangère, c'était un gros travail, très court, on a eu très peu de temps au final, pour créer et raconter l'histoire de la Reine Bérangère et de ses concitoyens, en fait. Donc, il y a une première partie qui est très historique. On retrace l'époque, en fait, on redessine l'époque, les origines de la famille de la Reine Bérangère, son parcours de vie, son parcours de femme, en tant que douairière du Mans. Donc, c'est une première partie avec des modules d'exposition classiques qui mettent en valeur les textes et les images sélectionnées pour cette occasion. Ensuite, on a deux cabines de projection, une à transept nord qui retrace par un dessin animé avec des dessins de Julien Carrette l'histoire de la fondation de l'abbaye de Lépau, comment cela s'est créé, comment cela s'est fondé. Donc voilà, un film de 6 minutes, très didactique, qui permet à tout le monde de comprendre un peu les premières pierres posées sur ce lieu, en fait. Ensuite, transept sud, nous avons documentaire sur la création de la BD, parce que la base de cette exposition, c'est, faut pas l'oublier, c'est la création d'une bande dessinée autour de la Reine Bérangère. Donc on a un film documentaire aussi de 6 minutes environ qui retrace la genèse de la création de la BD entre le dessinateur, le scénariste et les historiens. Une espèce de dialogue commun autour de cette création, de cette œuvre du 7e art. Et ensuite, nous retrouvons autour du Gison qui a été déplacé définitivement il y a quelques temps déjà, au cœur de l'abbatiale. On retrouve le mapping qui avait été créé il y a 2 ans, il me semble, de Yann Nguema, de l'artiste rochelet. Yann Nguema, qui vient poser ses couleurs et ses mouvements autour du gisant de la Reine Bérangère, ce qui permet de le mettre en vie et en couleur, en animation, de manière assez subtile et très poétique. Donc c'est un ensemble, la scénographie de l'exposition est un ensemble de documents à lire, à regarder, à écouter et à partager en fait. Tous les médias sont représentés afin d'attirer l'œil et l'oreille des spectateurs en fait.
Et justement, pourquoi venir découvrir votre travail à l'abbaye royale de Lépau ?
Parce que c'est intéressant, c'est un travail collectif fort qui a été réalisé autour de l'institution, où l'ensemble de nombreuses équipes de Sainte Sculpture et de Sainte Lecture ont été mobilisées pour donner à voir et à partager cette belle exposition. Donc c'est un événement à pas rater. Ça permet aussi d'ancrer notre histoire locale de manière simple et parfois ludique aussi, pour se rappeler d'où vient, en tout cas ce bâtiment déjà, qui est l'abbaye royale de Lépau, mais en tout cas d'où vient cette histoire aussi, locale et départementale. Donc c'est intéressant de traverser cette exposition pour se nourrir de notre histoire commune.
Et est-ce que vous avez des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur votre travail ?
Alors je suis très mauvais sur ce point, je suis excessivement mauvais. J'ai un site internet, c'est atelier-du-6home.fr. Donc là, il y a un peu des images, peu de vidéos, etc. Mais je ne suis pas un très bon communicant, je ne suis pas très doué sur ce point-là, en fait. Voilà, on peut fouiller un peu, peut-être qu'on cherche un peu, il y a Atelier Home ou Mot Création, on trouve des choses. Ouais.
Est-ce que vous avez des projets en perspective ?
Alors, oui, pour 2023, ça s'annonce déjà pas mal chargé, en fait. Et en laissant un peu de la place découverte, hein, évidemment. Mais je voudrais relancer un projet personnel d'une œuvre lumineuse. Je n'ai pas fait ça depuis 2008, en fait. Donc ça me manque un peu. Pour l'instant, j'ai beaucoup répondu au travail de commande, en fait. Donc j'avais pas mal de cartes blanches quand même, hein. Pas mal de créativité à donner, à partager par rapport à ces projets-là. Mais là, j'ai envie de faire un projet très personnel, hein, qui sera visible, j'espère, fin 2023 ou début 2024. Voilà, et après, j'attends, pourquoi pas, de refaire une dernière expérience à Abbaye Royale de Lépau sur le parcours lumineux et sonore. Là, cette année, on a été mis en place des nouveaux cheminements autour du parc et ça donne d'autres axes de lecture, d'autres perspectives à découvrir, donne envie en fait, voilà, de continuer en tout cas cette démarche et ce travail-là.
Alors, Olivier Clauze, je vous remercie et j'espère que beaucoup de monde viendra découvrir votre travail à l'abbaye royale de Lépau jusqu'au 15 janvier. Je vous dis à bientôt sur notre antenne.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.